Bienvenue sur Voltage. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
L'invité du 10-15.
Eh, Mamodinette, c'est ton moment là.
Ah, c'est mon moment, c'est moi qui l'ai choisi l'invité du 10-15 aujourd'hui.
Je vous explique comment ça s'est passé. À chaque fois, Maud, elle a des galères avec ses enfants, c'est-à-dire que ses filles sont un peu folles.
Non.
Elle m'a dit, j'ai découvert un compte Instagram. Il s'appelle Mélinana.
Oui.
Derrière, c'est Mélina. Et Mélina, elle était avec nous aujourd'hui sur Voltage. Salut Mélina.
Salut.
J'aime beaucoup ton compte. On aime beaucoup ton compte avec Maud parce qu'en fait, tu désacralises ce que c'est que la maman parfaite.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors parle bien dans le micro.
Pardon. Vous m'entendez bien?
Ouais.
Ça va?
Ouais.
Oui, bah en fait, oui, c'est vrai que bah, je me présente déjà. Donc Mélina, 37 ans, mariée, maman de 4 enfants.
Et 4 enfants, hein, vous avez bien entendu.
Voilà. Oui. Non, c'est pas une erreur, on en a bien 4. Voilà. On est dans la galère jusqu'au bout, faut se le dire. Mais ouais, voilà, maman de 4 enfants, bah, je suis sur les réseaux. Pour vous dire comment tout a commencé, en fait, c'est que à la base, moi, j'étais sur TikTok. C'est ma sœur, ma petite sœur qui est sur TikTok, qui me disait oh, bah regarde, tu vas voir, il y a des vidéos super sympas. Moi, je disais bah, non, mais je suis trop vieille, je veux pas aller sur TikTok, il y a que des jeunes. Et donc, ce que j'ai fait, ça s'est fait progressivement. Donc, je regardais, après, je faisais des vidéos que j'envoyais à mes sœurs et à ma mère, et ma petite sœur me dit mais tu devrais les publier, c'est trop drôle. Et je lui dis non mais les mamans on s'en fiche quoi, enfin c'est pour les jeunes. Et voilà, et après j'ai publié et puis bah c'est parti de là. Voilà. Et pourquoi Instagram? Bah c'est que les gens qui étaient sur Instagram m'ont dit ah moi je suis pas sur TikTok, ce serait cool que tu crées un compte Insta. Bah je l'ai créé, puis bah ça a pris et voilà.
Non mais parce que c'est en fait ce que j'aime c'est que c'est drôle mais c'est vrai.
Bah oui c'est ça, c'est que en fait c'est mon quotidien de maman. Moi je me prends pas la tête, j'ai des galères comme tout le monde. Et c'est vrai que j'aime bien, tu vois, montrer tout ça sous le ton de l'humour, la légèreté. On galère, mais on est quand même heureuse, tu vois. Mais on galère beaucoup aussi. Donc moi je montre tout et voilà quoi. Et je me dis que bah je dois pas être la seule. A priori.
Mais même des fois tu donnes des petites astuces, je sais comment en parler. Tu parlais notamment pour les vêtements des enfants en termes d'organisation. Moi
ouais.
Ça m'a beaucoup aidé.
Oui c'est vrai, le système des boîtes.
Oui.
Ouais, et ben ça c'est génial. Enfin je le fais surtout pour les deux petits parce que les grands ça va, ils se gèrent.
On va expliquer parce que je pense que les gens ils vont pas comprendre.
C'est vrai.
En gros tu prépares les vêtements de tes enfants pour la semaine et tu fais des boîtes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et du coup tes enfants peuvent directement le matin aller choisir.
C'est ça. Bon généralement c'est papa qui y va parce que le matin ils sont pas très coopératifs.
Non.
Donc c'est soit papa, soit maman. Mais oui c'est vrai, non mais on gagne un temps fou. Et tu vois, il y a des petites choses comme ça que tu fais. Bon après je m'aide aussi de Picard surgelé pour les repas et autres. Hein, merci le McDo. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire.
Si. Okay. On va citer les Burger King, KFC, voilà. Tout ça, voilà.
Mais non, voilà. Après, bon, on essaie de gérer comme on peut, mais tout n'est pas parfait. Et je me dis, il faut le dire, quoi. Moi, je fais avec l'instinct. Voilà, je fonctionne avec l'instinct. Je me prends pas la tête. Et mais ça roule, parce qu'on en a 4 quand même.
Mais c'est ça qui est bien aussi avec ton compte Instagram, c'est qu'en fait, ça désacralise un petit peu ce truc de la maman parfaite.
Ouais.
Couvert d'humour, c'est pour montrer qu'en fait il n'y a pas de maman parfaite, il n'y a que des mamans qui font de leur mieux.
Bah exactement, non mais c'est ça en fait, c'est que tu sais on met beaucoup de pression sur les mamans alors que non, enfin fie-toi à ton instinct, tant que tes enfants sont en santé et sont heureux, pour moi c'est le principal, voilà c'est ce que je me dis. Donc je fais du mieux que je peux et puis tant qu'ils rigolent, qu'ils sourient, qu'ils sont bien, et ben c'est que tout va bien. Parce que c'est des foufous mais je suis encore plus folle qu'eux. Donc du coup tu vois ça match bien finalement.
Je sens qu'on va bien se marrer aujourd'hui, restez par là jusqu'à 13h. Mélina notre invité sur Voltage, la radio parisienne, et juste avant c'est parti, voici le nouveau David Guetta, la reprise de Hadaway sur Voltage.
L'invité du 10-15.
L'invité du 10-15 aujourd'hui c'est Mélina du compte Instagram Mélinana. Je suis très content de te recevoir, moi aussi, très content de te recevoir.
Moi aussi, je suis super content d'être avec vous, merci.
On est tous contents.
Alors, ne croyez pas que Mélina est sérieuse, elle est complètement folle.
Bah, elle a t'as 4 enfants déjà. Donc,
oui, déjà, elle a 4 enfants, c'est une preuve de folie.
Aussi, ouais, c'est vrai.
Alors, en fait, sur ton compte Instagram, tu désacralises ce que c'est que la maman parfaite. Tu fais plein de vidéos trop drôles, des petits conseils aussi, en fait, pour s'organiser.
Ouais, des petits conseils décalés, on va dire, mais oui, des petits conseils, ouais.
Du coup, 4 enfants, ils ont quel âge?
Alors ils ont 13 ans, 10 ans, 5 ans et 3 ans.
Wow.
3 garçons et une fille. La dernière,
enfin la fille.
Alors je précise qu'on n'a pas fait la dernière pour avoir une fille. Parce que déjà on s'attendait à avoir un garçon.
D'accord.
Et finalement on a eu une fille, donc c'est bien, c'était la cerise sur le gâteau.
Ouais,
pour des raisons de santé mentale, nous n'avons pas fait un enfant supplémentaire.
Ouais.
Mélina, c'est quoi les trucs auxquels tu t'attendais pas en devenant maman?
Bah déjà je pensais pas qu'il était possible d'être aussi fatigué quoi. Non mais je vous assure que, mais enfin, oui tu te rends pas compte, mais être maman, enfin être parent en général, non mais tu, en fait tu retrouves, t'as des ressources que tu ne soupçonnais même pas. Et la fatigue, mais ça te, enfin voilà, moi ça me faisait halluciner de me dire j'ai dormi que 2 heures et je dois aller bosser. Bah ouais bah t'y vas, c'est pas grave, tu te prends sur toi, t'y vas, mais voilà. Oh mais tu sais il y a tellement de choses.
Et ça saoule pas trop maintenant les gens qui ont pas d'enfants qui disent oh je suis fatiguée.
Ben un petit peu, mais bon après ils te disent ouais mais c'est pas parce que j'ai pas d'enfants que je vais pas fatiguer. Oui je sais mais moi j'en ai. Et... ou alors ils te disent ouais mais bon tu les as voulu donc faut assumer. Ben oui non mais je les assume, non, mais j'ai le droit d'être fatiguée quand même quoi. Donc voilà. Non mais il y a tellement de choses auxquelles tu t'attends pas. Alors attention jeune maman, excusez-moi, je veux pas vous choquer, mais en fait après avoir accouché, tu vois, je m'attendais pas à, en allant à la selle à ce que j'ai l'impression qu'une pastèque me sort du, tu vois.
Non, non mais pardon, non, franchement mais quand tu viens d'accoucher, t'es au top du glam. Hein,
non mais je vous dis pardon, non mais on est là, on se dit ouais, tout, on est entre nous.
Et les culottes filet.
Les culottes filet et attention la serviette hygiénique, oh l'épaisseur d'une entrecôte.
Non, ah, mais attendez, attendez, attendez parce que là vous pardon, parlez, vous pardon. Me parlez dans une autre langue. Je sais même pas ce que c'est que la culotte filet.
Donc quand tu viens d'accoucher.
D'accord.
Tu as encore beaucoup de choses qui sortent de toi, d'accord. Même si le bébé est déjà sorti. D'accord. Et donc du coup, ils te filent une espèce de culotte filet. Ouais. Dedans, ils te mettent une serviette hygiénique, elle a raison, de la taille d'une entrecôte.
Je te jure, l'épaisseur, vraiment, c'est comme une entrecôte.
Et ils veulent être sûrs que tu peux faire... Je suis désolée, tu peux faire caca après.
Voilà.
Parce qu'il peut y avoir des soucis. C'est et en effet, quand tu fais pour la première fois, bah... Wow.
Mais parfois, pardon, mais tu fais une petite crotte de lapin, mais toi, t'as l'impression que c'est une pastèque, quoi. Donc, c'est...
Et si je te racontais, je vais pas raconter parce que les gens, ils vont mourir. Moi, j'y arrivais pas. Ils m'ont donné des médicaments,
oui,
quoi.
Non, mais c'est
y
vrai, arriver, hein. Parce que limite, t'as l'impression que c'est ton billet de sortie pour rentrer à la maison. Ouais. Quoi. Donc, toi, t'es là, vas-y, s'il te plaît, allez, et puis, ben, c'est un peu dur, quoi. Ouais, voilà. Donc, oui, pardon, hein, mais.
Je ne contrôle pas.
Hein. Les choses.
Les joies de la maternité. C'est un truc, franchement, faut en prendre conscience parce qu'on te le dit pas. Personne n'en parle parce qu'en effet, c'est pas très glamour.
En fait, c'est toujours tabou. Toutes ces choses-là, mais même quand on fait, alors pardon encore une fois, mais l'épisiotomie, la première fois que tu fais pipi, mais ça te, mais ça te déchire, ça rase, ça fait trop mal,
ça brûle,
mais on te le dit pas, tu vois, tout ça, si tu le sais pas, non mais enfin voilà quoi, ou même moi je savais pas qu'un bébé, ben, ça pouvait pleurer des heures et des heures,
oui,
donc toi t'es là, tu dis mince, mais qu'est-ce que je fais, enfin je pleure avec lui, qu'est-ce que,
je pleure avec lui,
non mais c'est vrai, non mais en plus, non mais sérieusement, au bout d'un moment, tu te retrouves à pleurer avec ton bébé parce que tu dis, mais moi aussi, je sais pas, tu pleures, moi je pleure, mais comment on fait,
pourquoi tu...
non mais c'est vrai. Donc non non mais être maman attention non parce que là ils doivent se dire ah ouais nous parle que des mauvais côtés. Non être maman c'est beau mais voilà il y a sa petite part de enfin faut gérer quoi, c'est pas toujours facile mais bien sûr que c'est beau, enfin moi j'ai bah sinon j'en aurais pas fait quatre, hein. Voilà mais non non c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas tous les jours facile mais ça reste un bonheur voilà, mais moi j'aime rigoler de tout ça. Je préfère le prendre sur le ton de la légèreté.
Eh, les amis, j'ai l'impression que c'est que des galères hein, d'être maman.
Non, non, mais non, quand il te fait maman, il t'aime, la première fois, t'es « Oh, mon mémé !» Bon, après, il te fait un petit caca qui déborde, mais c'est pas grave, tu dis « Mais viens de me dire qu'il m'aime !» Donc, il n'y a pas de souci, tu vois, mais c'est pas que des galères, je te rassure.
Il va aussi falloir que tu nous racontes un petit peu la routine d'une maman pas parfaite. Comment ça se passe au quotidien? On va reparler avec toi, Mélina.
Ok, ok.
Juste avant, il était notre invité mercredi dernier. Voici Tom Grégory sur Voltage.
L'invité du 10-15.
Ouais, Mélina est notre invitée aujourd'hui sur Voltage, la radio parisienne du compte Instagram Mélinana, où tu donnes plein de bons conseils pour devenir une maman pas trop parfaite.
Voilà, exactement.
Je sais même pas, t'as 4 enfants, mais comment vous faites pour les occuper? Je dis vous parce qu'il y a aussi Maud dans le studio. Comment vous faites pour occuper vos enfants de longueur de semaine?
Alors, c'est surtout, c'est pas la semaine le plus compliqué.
Ouais,
c'est le week-end parce qu'il n'y a pas école.
Il n'y a pas école et ça dure 2 jours. De 6h à... moi ça va, j'arrive à les faire coucher tôt. Donc ça va, non parce que pour ma santé mentale, faut qu'ils aillent tôt parce que sinon personne ne survit à la maison.
C'est ça.
Voilà, si maman, papa, ça va pas, y a personne qui survit.
Alors je pense qu'on a plein de mamans qui nous écoutent là sur le cage. C'est quoi tes conseils à toi pour occuper tes enfants le week-end?
Eh bah écoute, bah merci pas de patrouille. Hein, ouais. Je vais faire plein d'ennemis, mais c'est pas grave. Non, mais après, honnêtement, moi je me prends pas la tête, quoi. Enfin, je fais des activités avec eux, mais parfois, moi aussi, je dois faire des trucs. Hein, y a autre chose à faire, à s'occuper à la maison. Et ben bah, je leur mets un petit dessin animé, ils sont contents. Même moi, je me pose avec eux. Enfin, le week-end. Par contre le dimanche surtout, moi ce que j'aime, dimanche après-midi, on se met sous les plaids, sur le canapé, on garde un petit dessin animé et voilà, enfin on kiffe.
Bah, je suis pressée d'avoir des gosses juste pour ça.
Et ben franchement tu verras, c'est génial. Franchement tu passes des bons moments. Bah, moi
oui,
j'adore.
Et non parce que moi ça fait 15 fois que je regarde la Reine des Neiges et j'en peux plus.
Je comprends. Non mais c'est comme moi, hein. Moi aussi il y a des Vaiana. Là en ce moment ils sont sur Tous en scène. Je sais pas si vous
connaissez.
Ah
oui, il est trop
avec
bien.
Tous les animaux. Je l'ai vu. Je pourrais pas te dire. Même mon cerveau n'arrive plus à calculer tellement je l'ai vu. Mais non, voilà, après le week-end, moi je me prends pas la tête. Hein. Parfois c'est les petits plats. Non, mais parce que faut le dire, hein, on n'a pas toujours envie de cuisiner. Moi parfois ça me saoule de cuisiner. Donc je vais chez Bicard. C'est pas. Ouais, pardon, j'en parle souvent, mais parce que. Non, mais ils sont bons leurs petits plats. D'accord, ouais. Non, au cas où, c'est le bon plan. Hein. N'hésitez pas, ils sont bons et puis ça rend service. Et voilà, donc bah après, oui, j'essaie de les occuper comme je peux. Je fais appel au papa gamer aussi. Parce que je lui dis, allez chérie, à ton tour maintenant, vas-y, maman elle en a marre là. Mais non, non, ça va, après ils sont cool. Hein. Mais il faut, t'es obligé d'aller au parc, t'es obligé de passer par la case toboggan, même si toi tu te fais un peu chier sur le banc. Mais, non mais vous dire la vérité, c'est, parfois c'est t'as pas envie ça. D'y aller, mais t'y vas parce que tu te dis, il faut les épuiser. Mais,
et en plus d'un côté, c'est le moment où comme ils jouent, toi t'es tranquille.
Voilà, tu vois, tu respires 5 minutes, ouais, maman j'ai soif, tiens, allez, va.
Alors j'ai une question pour vous deux, j'ai une question pour Maud et toi.
Oui.
Est-ce que vous avez eu ce kiff de faire découvrir à vos enfants des trucs que vous avez découvert quand vous étiez petit? Moi par exemple, à mes enfants, c'est sûr, ça sera Harry Potter, Pokémon, je veux qu'ils découvrent ça, genre le Roi Lion et tout.
Ouais, et ben voilà, bah t'en parles. Moi c'est ça, moi les Disney j'adore et c'est vrai qu'avec mon mari, nous on adore bah, tout ce qui est, enfin quand je dis à l'ancienne, enfin que ce soit la musique, même pour mon grand qui a 13 ans, ben nous à la maison déjà il y a tout le temps de la musique, on lui fait écouter les sons d'avant, je sais pas moi, Gangsta Paradise, je sais pas, même Tragédie, à toutes les ladies.
Et alors enfin, voilà. Et on te dit c'est des trucs de vieux, on te dit c'est vieux ou alors c'est bien?
Eh ben, non franchement ils aiment bien, enfin pas toutes les chansons, mais tu oublieras, ben voilà tu vois. Non mais c'est vrai, enfin et donc du coup les dessins animés, tout ce qui est le, ah non mais le Roi Lion, Pocahontas, mon mari adore Pocahontas, mais voilà tous les 101 Dalmatiens, les Aristochats, ah mais moi j'adore, et donc du coup ouais je leur fais découvrir la petite sirène et tout, enfin non ils aiment bien, tu vois, et puis ils sont heureux de découvrir, ils se disent ah on connaissait pas, oh maman et papa regardaient ça, et du coup non c'est cool, on regarde ensemble, et ah moi j'adore la
chanson. Tu leur as montré Harry Potter?
Alors non, parce que j'avoue que moi je suis pas fan. Aïe.
Quoi?
Ouais, je sais. Enfin,
je ne vais
c'est pas,
pas
mon truc, j'avoue, c'est pas mon univers.
On va pas rentrer dans ce débat.
Pardon, c'est pas mon univers Harry Potter, j'avoue que non.
Oh, et franchement, j'aimerais tellement, mais je veux des enfants.
Les jeux de société, tu vois, moi là je commence à me dire, je vais peut-être commencer à jouer au Uno et au Milborn, c'est des vieux trucs. Hein.
Alors nous on joue au Uno, mais il faut savoir que le Uno à la maison, attention, il y en a qui n'aiment pas perdre, donc c'est la guerre. Alors déjà t'as les petits, donc bah vas-y, faut les faire participer. Donc moi je vais en prendre un, mon mari ou les deux grands frères vont en prendre un. Mais attention, entre mon mari et les deux grands et moi, ah non mais c'est la guerre. À nous le Uno, attention c'est le jeu, mais ça peut mal finir.
Est-ce que tu planques des cartes avant de commencer à... Est-ce que tu en as ce niveau-là de planquer des cartes avant
non,
de commencer
non,
la partie?
Non, non, on n'en est pas là, mais c'est qu'il y a des enjeux. Attention. Donc si tu perds, tu dois vider la vaisselle et tout.
Ah,
et
ouais,
tu... Bah ouais, faut bien les faire participer.
Bah,
grave.
Bah attends, mais même sans avoir d'enfant, moi je suis trop chaud de faire ça avec ma copine un jour. Ça part en jeu de société
toi
pour faire
les ménages.
Bah ouais, voilà, bah si, bah avec mon mari parfois on se met des trucs comme ça. Hein. Ah ouais, bah vas-y, si tu perds, ah bah c'est toi qui te lèves demain matin. Tu vois, le week-end on essaie de. Moi je dors et toi tu te lèves.
Mais Théo, tu sais que ça existe pour les couples, hein, mais c'est des jeux coquins. Hein,
ah,
c'est pas pour le ménage.
Voilà, toujours tu reviens sur ce sujet, c'est pas possible, moi j'étais sur un truc mignon, l'autre.
Bah, non mais je pense qu'il faudra qu'on en parle après avec Mélina, justement, la vie de couple. Oui, oui. Avec les enfants.
On va parler de toi avec ça, on va parler de ça avec toi Mélina, comment gérer un peu la vie de couple, la vie de famille. Avant ça sur Voltage, la radio parisienne, Broken Back avec Windy, voici le morceau Away From Home.
L'invité du 10-15.
Imagine Dragons et Symphonie sans Voltage, vous êtes sur la radio parisienne, c'est vendredi aujourd'hui. Et comme tous les vendredis, c'est l'invité du 10-15. Aujourd'hui c'est Mélina qu'on reçoit du compte Instagram Mélinana. Comment ça s'écrit Mélinana d'ailleurs?
Alors attention, on va pas faire simple, bah oui parce que je chante. Donc du coup c'est M-E-L-2-I-N-A et N-3-A.
Oh,
bah désolé parce que Mélina s'était déjà pris, alors j'ai dû être un petit
elle
peu
a autant de lettres que d'enfants.
Voilà, voilà exactement. Ah, pas mal celle-là.
Mélina, t'as 4 enfants.
Oui.
Et tu as un compte Instagram très drôle où tu donnes plein de bons conseils pour les mamans, pour les futures mamans, où tu désacralises un petit peu ce que c'est que la maman parfaite.
Ouais.
On a parlé de tout ça avec toi.
Oui.
On veut aussi un petit peu revenir tiens, sur le côté vie de couple, vie de famille. Comment on fait pour gérer un peu, bah, comment on maintient sa vie de couple quand on a 4 enfants et t'es pas toute seule aujourd'hui.
Oui.
Tu es venue avec un tout petit gringalet.
Voilà, un invité surprise.
De à peine 1m40. Salut Anthony.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Tu es le mari de Mélina.
C'est ça.
C'est là il te dit non, non.
Ouais. C'est moi le mari gamer.
Voilà.
C'est lui le grand monsieur. Comment vous faites au quotidien? Tiens, vous avez 4 enfants, j'imagine que ça vous prend tout votre temps. Mm-hmm. Comment vous faites en fait pour maintenir un peu cet équilibre de vie de couple, vie de famille?
Bah on fait rien en fait. Non, je rigole.
On se parle plus.
Non.
Au contraire, au contraire.
Non, ouais, au contraire, ça, ouais, c'est vrai. On rigole beaucoup. Nous, on est un peu foufou, donc du coup, enfin le week-end par exemple, vu qu'on est là ensemble, et ben on est tout le temps à se chamailler, à se marrer, à se foutre des tartes, à se, je sais pas, il est sous la douche, je vais ramener le verre d'eau. Non mais j'aime bien l'embêter. Ah non mais j'adore, mais j'adore l'embêter, on s'embête tout le temps. Et même nos enfants se marrent de nous voir comme ça. Et je trouve ça cool aussi. Donc,
est-ce que vos enfants, quand ils doivent ramener des potes à la maison, ou s'ils doivent un jour ramener des potes à la maison, vous pensez qu'ils diront, tu feras pas gaffe à mes parents, ils sont un peu.
Ouais, le grand, je pense.
Ah, je crois qu'ils le savent déjà.
Ouais, je pense que c'est ce que j'allais dire déjà. En plus, ouais, parce qu'on les croise parfois, et puis, bah, comme ils font aussi sur les réseaux, ouais, ils se disent, ah ouais, ta mère, elle est un peu. Ouais, un petit peu fofolle, mais voilà. Non, mais après, oui, avec Chéri, bah, on arrive toujours à se retrouver, c'est important. Enfin. Je sais que ça fait cliché, mais faut communiquer. Voilà, c'est important de s'octroyer des moments, par exemple une fois qu'on a mis les enfants au lit. Après, on a des projets communs. Enfin, voilà, on est vraiment. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc déjà, il a pas le choix et moi non plus. Donc, mais en espérant voilà qu'il y ait plein de belles années, mais ça s'entretient quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on maintient la flamme, on se marre, on fait plein de choses ensemble. Ouais, on joue aux amis. Non, mais la vie, qui raconte sa vie. Non mais c'est vrai, on fait plein de trucs ensemble, on se fait même des défis au baccalauréat, enfin voilà quoi.
Vous arrivez à trouver des petits moments tous les deux sans les enfants de temps en temps?
Ouais. Si on essaie. C'est pas toujours évident, non, faut être honnête, parce qu'on en a quatre. Et c'est vrai qu'aussi on n'aime pas trop. Mamie Sylvie, mamie Annie, si vous nous écoutez, maman, c'est vrai qu'on n'aime pas trop embêter les mamies, voilà, elle le ferait avec grand plaisir hein, de gérer les enfants pour qu'on puisse profiter tous les deux.
Mais c'est, quatre,
c'est vrai
quoi.
Que bah, déjà c'est quatre et même nous on fait plein de choses aussi avec nos enfants. Donc voilà, mais on arrive à trouver des moments pour nous. Voilà, parfois faut bricoler, hein. Enfin quand je dis faut bricoler, allez chérie, tu les as mis au lit, vas-y ce soir on se fait un film. Ouais, bon, tu te fais le film, il y a toujours maman, des soins. Enfin, mais bon, c'est pas grave, on met pause 10 fois. Mais on arrive à se retrouver, on arrive à avoir ce petit équilibre qui fait que ça dure quoi, mine de rien.
Alors juste pour revenir sur le truc des mamies, je t'arrête tout de suite, je ne pense que ça ne gonfle aucune mamie au monde de garder les petits enfants. Ma mère n'arrête pas. Attends, moi ma mère n'arrête pas de me demander quand est-ce que je lui fais un petit. Hein.
Ah bah mais tu sais que les grands-mères appellent les enfants les chics ouf. Parce qu'en gros quand ils arrivent ils disent chic, ils arrivent et quand ils partent ils disent ouf, ils repartent.
Ah, c'est moi, j'avais déjà entendu cette expression. Ouais.
Parce que mine de rien ça demande beaucoup d'énergie, on se rend pas compte.
C'est vrai.
Et au début ils sont contents et après ils disent ouais, je suis contente d'avoir ma vie quand même.
Oui bah c'est normal. Non, ils profitent en fait. Mais attends, pourtant les mamies elles ont quand même les bons moments. Hein.
Oui,
mais c'est vrai que parfois bah je les comprends quand t'as pas l'habitude, quand tu. Bah après t'as plus tes enfants, hein, ils sont grands. Quand t'as les petits, t'es content au début, mais à la fin, ah ils vont retourner chez leurs parents.
Bah ouais.
Enfin je vais pouvoir souffler moi aussi. Bah on est pareil, donc nous on les envoie, on est content, on souffle et puis après bah après il te manque aussi hein.
Par exemple tu vois il y a les vacances de Pâques qui arrivent, j'ai ma mère habite pas en région parisienne, donc je vais les emmener à Lyon chez ma mère, je lui ai déjà prévenu, il reste 2 semaines donc moi je suis en folie.
Ouais.
Et ma mère me dit putain j'espère que je vais pas être trop crevée.
Elle est passée très vite du stade ça me fait kiffer à tu peux les prendre.
Elle m'a dit 2 semaines, 1 semaine c'est pas possible. Je lui dis ouais mais l'aller-retour Lyon-Paris, c'est pas rentable, tu comprends, 2 semaines c'est bien.
Ouais, t'as bien négocié ton truc, non c'est bien ouais.
Bon allez pour finir, je vous ai prévu le petit instant Anthony et Mélina. Le petit instant qui de vous deux.
Ok.
D'accord, on va revenir un petit peu sur votre vie de couple, votre vie de famille.
Ok.
Qui de vous deux a le plus fait semblant de pas entendre les enfants pleurer la nuit quand ils étaient tout petits?
Je pense que c'est moi.
C'est étonnant ça.
Voilà. Non mais je comprends pas. Moi parfois je me dis il faut que je dorme de son côté. Peut-être que je les entendrai pas. Moi je les entends tout le temps. J'arrive pas.
Non,
je sais pas.
C'est la
mamans,
même
c'est
à la
ça.
Maison.
Non, mais
je vais pas parler du sommeil de mon conjoint. Tu le sais. Hein, tu connais l'anecdote. Mais il ne se réveille pas du tout.
Non mais
même s'il y a un attentat dans la maison, il ne s'est pas réveillé.
Ouais non mais moi je comprends pas. Non mais je sais qu'il y a un complot. Dis-moi la vérité.
Non mais côté fenêtre on n'entend pas.
Ouais c'est ça.
Côté porte.
C'est chelou hein, les mecs, on a toujours le côté où je sais pas le son ne
passe pas. Ouais le son ne passe pas.
C'est pas notre faute en fait, c'est vraiment. C'est le destin.
C'est l'acoustique.
Ouais.
Qui renvoie le plus vers l'autre, va demander à maman, va demander à papa.
Chérie, il les envoie tout le temps. Non. Oh, tu mens. Oh, c'est un menteur.
Non, par contre.
C'est exactement ça que je voulais. Une séparation en direct.
Tu prends jamais de décision.
Tu veux pas froisser
les enfants. Quand c'est négatif, va voir papa.
Pas vrai, tu mens. Non. C'est lui parce qu'il dit oh, bah, je sais pas, vois avec ta mère.
Quand c'est positif, je te laisse le bon. Quand faut dire non, va voir papa.
Non, c'est pas
demande vrai, à ton
c'est
père.
Pas, non.
Bon, on vous mettra pas d'accord.
Voilà, non.
Impossible. On est trop de mauvaise foi.
C'est ça.
Et puis pour finir, qui de vous deux se coltine les réunions parents-prof?
C'est chéri.
C'est bon. Voilà, ah,
j'avoue que sur ça, moi je l'envoie à chaque fois. Et en plus, dès que je reçois le mail, je dis bon ma chérie, tiens, tiens, allez, hop, bah faut bien qu'il fasse quelque chose aussi. Je ne dors pas la nuit déjà. Voilà, hop là.
C'est vraiment relou les réunions parents prof, que je sache un peu à quoi m'attendre.
C'est chiant. Enfin, ouais, c'est chiant. Non, faut dire la vérité, c'est chiant.
Alors, je vous rassure tout de suite, ma mère est directrice d'école maternelle.
Ah.
C'est pas que pour les parents que c'est chiant. D'accord. Apparemment,
oui, bah,
c'est un truc un peu informel qu'on se dit pas, mais tout le monde trouve ça chiant.
Ouais, non, mais juste leur dire que quand t'es adulte, s'asseoir sur une petite chaise d'enfant maternel, c'est compliqué quand même, hein, franchement.
C'est vrai.
Mélina, on te retrouve sur Instagram, donc c'est Mélinana.
C'est ça, 2i.
Avec 14i, 8a.
Voilà. 2i, 3a à la fin, pardon.
De toute façon, on va partager, évidemment, on va faire un petit réel hein, sur Instagram. On t'identifiera dedans.
Et il y a le podcast de l'interview qui va arriver dans la journée aussi.
Exactement. Je vous remercie beaucoup, Anthony, Mélina, d'être venu.
C'était génial.
On a passé un super moment avec vous. Je vous souhaite un bon retour.
Merci.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur Voltage.
Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien ne presse. Quand je te vois, je le déduis de ton style flash, laisse ton cœur froid. De toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Mon angle est bien beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi. Quand je te chante, c'est avec toi que jamais si tu permets. Crois-moi, car c'est ta place qui m'a tiré, tu le sais. Ça se voit, c'est avec toi que je te désire, mais dans le respect. En tout cas, c'est avec toi que ça marche à chaque fois.
J'ai d'abord remarqué tes yeux avant tes fesses.
Nah.
Ok, j'avoue, c'est pas vrai, je le confesse. Je ne suis qu'un homme, c'est normal, faut pas que tu stresses. Et le plus important, c'est que je suis reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète. Ton charme commence, ton sexe appuie la rette. Tu souris, tu me parles, c'est assez pour perdre ma tête. Et c'est très sincèrement que je te chante, que c'est avec classe que j'admire si tu le permets. Crois-moi, car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais. Ça se voit et c'est avec classe que je te désire, mais dans respect. En tout cas, c'est avec classe que ça marche à chaque fois. Ça se voit, c'est avec classe que je te désire, mais dans le respect. En tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois.
Vous êtes sur Voltage avec moi, une intelligence artificielle. Installez-vous bien pour découvrir les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Bonjour Eric Tolenado, Olivier Nakache. Alors, vous attaquez deux nouveaux thèmes dans ce film, Une année difficile. Vous êtes des vrais fans de cinéma. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de refaire quelque chose qui a déjà été fait dans le cinéma?
Voilà, c'est là tu appuies, cher ami, sur une peur mais chronique et obsessionnelle. C'est vraiment, je pense qu'on a éliminé tellement de sujets parce qu'on s'est dit, ça a déjà été fait. bien fait, même pas bien fait, mais on veut pas aller sur les terres. Au contraire, quitte à se planter, on préfère aller défricher des terrains plutôt non explorés, ce qui a été le cas ces dernières années, heureusement pour nous.
Tu vois, là, par exemple, on avait envie de faire un film sur une poupée, Barbie, un truc comme ça. Finalement, ça a été fait, puis on va pas le faire. En plus, ça a pas marché.
Attends, on avait dit aux gens, habillez-vous en rose et tout, ouais. On avait tout le truc. Ouais.
On va passer à autre chose.
Alors, après Barbie, du coup, est-ce que c'est le surendettement ou l'écologie qui a pris le dessus au début sur une année
difficile ? C'est la bombe atomique. évidemment, c'est les deux sujets qui nous intéressaient. Et évidemment, on avait intuitivement la sensation qu'il y avait une complémentarité possible, un pont possible entre les deux, puisque il y a un rapport entre le plus et le moins, le vide et le plein, et on a travaillé ces sujets-là en corrélation, en réfléchissant à qu'est-ce que ça pouvait imbriquer, et c'est la comédie qui est venue se poser comme solution à essayer d'expliquer, à mettre en relation des situations justement entre des gens qui sont que dans la consommation, la surconsommation, et qui n'ont que faire de l'avenir de la planète, et des gens qui se préoccupent beaucoup moins d'eux-mêmes, et qui, en gros, des gens qui veulent se sauver eux-mêmes dans la vie, et d'autres qui veulent sauver le monde. Et c'est ce paradoxe-là et ce parallèle-là qu'on a voulu mettre en scène à travers une comédie un peu à l'italienne, un peu grinçante comme ça.
Alors, vous avez collaboré avec des associations militantes pour la préparation du film. Est-ce que vous avez fait la même démarche avec des personnes en situation de surendettement ?
Tout à fait.
Ouais.
On a été accueillis par une association qui s'appelle Crésus, voilà, qui essaye d'aider, gérée par des bénévoles, qui essaye d'aider des gens en situation de surendettement et de précarité. Donc oui, on a fait des ateliers d'éducation budgétaire pour aller à la rencontre des gens jusqu'au parcours de la Banque de France. On a suivi des gens qui avaient vraiment des soucis de surendettement. Parce qu'en France, il faut savoir qu'on a le droit à une deuxième chance. On peut se faire effacer les dettes par la Banque de France. Donc c'est la constitution d'un dossier. C'est tout un protocole et on est rentré dans les rouages de ce protocole.
Ouais, peut-être beaucoup d'éditeurs qui vont le découvrir du coup
avec
le film. Alors, quand on débute dans le cinéma, on vit forcément des années parfois difficiles. Quand on est étudiant aussi, est-ce que ça a été votre cas ? Et si oui, quel regard est-ce que vous avez sur ces années-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles vous ont appris ?
Déjà, nous, on les a vécues à deux, ensemble, à l'époque, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque où on était justement étudiants et dans la post-adolescence. On a fait pas mal de petits boulots, on a vécu des années... Alors, ces années difficiles, elles sont assez formatrices. Pour moi, je pense que ce serait arrivé d'un coup et on aurait pu faire des films plus tôt, on aurait été moins mature pour aborder le sujet. Il faut qu'il y ait eu du désir, il faut même qu'il y ait eu de la frustration, à mon avis, pour que on soit content de monter de temps en temps sur le podium quand un film fonctionne. Pour le coup, on a réussi à transformer à peu près toutes nos expériences en film. On a travaillé dans des mariages, on a fait Le Sens de la Fête, on a travaillé dans les colonies de vacances, on a fait Nos Jours Heureux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme...
Hors Normes.
Hors Normes, on a côtoyé des associations qui s'occupaient d'enfants autistes, on a même travaillé pour eux, et on a fait Hors Normes. Donc, je pense que c'est des années sandwich, où justement on se nourrit de sandwich d'ailleurs, mais où on se nourrit de matière qui va à un moment ou un autre sortir en fiction.
Alors, dès l'intro, vous mettez beaucoup de rythme, ça va vite, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par exemple dans Hors Normes avec Une Course Poursuite. Tout au long du film, on va avoir beaucoup de décors différents, on imagine beaucoup de moyens en termes de production et d'autorisation de tournage, ça a dû être un défi pour certains endroits, je pense au Trocadéro ou la Banque de France.
Oui, c'est un défi, ce film n'a été qu'une succession de défis à relever, et c'est tant mieux parce que on aime aller dans des nouveaux territoires et se mettre en danger et relever des défis. Oui, en production, ça a été un film compliqué à échafauder.
Alors, est-ce que ça vous manquait un petit peu après en thérapie ou c'est quand même beaucoup plus calme en termes de
très franchement, ça nous manquait. Ouais, parce que effectivement, on a passé 4 ans à écrire des scènes de chant contre chant entre deux personnes. C'était fabuleux. Il fallait tout passer par le jeu et l'intériorité. Mais il était temps qu'on retrouve la vitalité. Puis c'est surtout aussi le post-Covid. Cette espèce de restriction de nombre de gens nous a sûrement donné envie d'écrire une scène avec 300 figurants dès le début.
Alors on a Pio Marmaille et Jonathan Cohen au casting qui sont deux grosses personnalités. En gérer un sur un plateau, c'est ok, mais les deux en même temps, comment est-ce que ça s'est passé ? Ça a été simple ?
C'est le bordel. Ah, pas se mentir, c'est le bordel. Ils sont deux fortes personnalités. Il faut les canaliser, on n'était pas trop de deux. On peut dire des choses comme ça.
Après, oui, ce sont quand même de grands pros.
Oui.
De grands pros, donc si vous voulez, ils savent aussi l'importance du l'enjeu d'une journée de tournage et de scènes à scènes à tourner, du travail à abattre. Mais c'est vrai qu'on nommait pas avec eux la déconne. Il y a de la déconne et du coup c'est à nous de la canaliser, de la transformer et pour que ça soit salutaire pour le film. C'est un échange.
Et du coup, comme Jonathan, il a déjà été réalisateur, est-ce qu'il comprend mieux vos attentes parfois? Est-ce qu'il a été force de proposition à certains moments?
Oh, il peut proposer. De temps en temps, on prend. De temps en temps, on prend pas. Mais oui, il est plutôt créatif. Et il y a quelques petits moments de brillance dans le film aussi qui sont des fulgurances qui lui sont arrivées ou alors qu'on a eu comme idée au dernier moment. En tout cas, il est très réactif. C'est un peu comme un sportif. On lui envoie le ballon, il peut le renvoyer tout de suite. Mais ceci dit, Pio aussi. Il a l'air moins comme ça, mais il peut être très, très vif et très réactif aussi.
Alors, vous avez évoqué la comédie italienne tout à l'heure. Il y a un film de Dino Risi qui s'intitule Une vie difficile. En plus du titre, on y trouve plusieurs similitudes avec des prises de position un petit peu radicales dans le film, une histoire d'amour qui semble impossible. Vous sentez-vous proche de la comédie italienne avec du coup son mélange de cruauté humaine, la cruauté sociale et la tendresse? On mélange tout ça?
Oui, on se sent proche au point de se revendiquer d'influence de comédie italienne tout au long des film, on en a parlé, mais c'est peut-être le plus italien celui-ci, puisque il prend tout le monde et il met tout dans un sac et il met une sorte de dose de noirceur et de pessimisme qui se transforme avec la comédie en petits moments d'aération réguliers et il dénonce et il aborde des sujets complexes avec légèreté. C'est tout l'art des Italiens de cette époque. Et puis alors La vie difficile dont vous parlez a été le début de ce titre qui est arrivé corroboré par le petit montage que les gens découvriront au début du film, qui explique aussi, pour ceux qui ne le savent pas et qui voudront le savoir, pourquoi nous avons choisi ce titre.
Alors, il y a une grosse attente lors de la sortie de vos films. Comment est-ce que vous la gérez, cette attente? Est-ce que vous êtes plutôt du genre stressé ou du genre à en profiter?
Les deux. En fait, on est stressé. Les deux, mon colonel. On est stressé, on est névrosé, on a peur, on doute. Mais en même temps, on veut aussi en profiter. C'est pour ça qu'on fait une grande tournée dans toute la France avec le plus de dates possible pour accompagner le film jusqu'au 18 octobre, la date de la sortie. Donc voilà, on en profite, on va à la rencontre des gens et en même temps, ça nous permet peut-être soit de nous rassurer un petit peu ou de nous calmer.
Ah, justement, vous parlez des doutes. Alors, quelle part de vos propres doutes et certitudes est-ce que vous avez intégré dans le film? Est-ce que des fois, vous refusez un discours un peu trop radical, peut-être dans les dialogues ou dans une partie du scénario? Et du coup, sur ce duo, de quel personnage vous sentez-vous le plus proche?
Oh, on se sent proche, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'on se sent proche de tous les personnages parce qu'on on les a fait tous parler. C'est un peu un théâtre de marionnettes, un film. Donc, quand Noémie se met à dire... on est là avec un mégaphone dans la main, on est la première génération à subir vraiment les effets du changement climatique et peut-être les derniers à agir. Je me sens proche de ce qu'elle raconte parce que c'est vrai qu'on nous parlait de ça à échéance de 2050 et qu'on voit que l'été qu'on vient de passer nous prouve que ça y est, c'est arrivé plus vite que prévu. Mais je me sens proche des losers magnifiques, d'un gars, je me dis si j'étais dans sa situation... J'ai toujours pensé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on perd à la sécurité quand on perd un parfum, un déodorant? Je me suis dit, mais si j'étais dans la merde, j'irais tout de suite aller les chercher pour en faire quelque chose. Donc, tous les personnages nous intéressent.
Même le chien empaillé.
Même le chien empaillé. tous les personnages nous intéressent. On les défend tous. Et c'est tous un peu nous-mêmes et pas du tout. Et c'est ça la force de l'écriture, c'est qu'on peut mettre de soi et mettre de quelque chose de totalement différent. Et c'est le mélange que ça donne à la fin qui peut être savoureux ou pas. C'est vous qui jugerez.
Alors, du coup, en vous rapprochant de différentes associations pour préparer le film, vous côtoyez des gens du coup qui vont être dans le milieu écolo, des gens qui vont être en surendettement. Est-ce que c'est pas trop compliqué derrière dans l'écriture d'être entre guillemets moqueur pour faire rire les gens avec ce genre de sujet sans essayer de les blesser, sans les blesser à aucun moment dans le film?
Mais nous, le mot moqueur, on l'a enlevé de notre vocabulaire parce que ça n'a jamais été un rire qui nous a intéressé. La moquerie, c'est depuis l'école, les moqueurs, on leur pète la gueule. Mm-hmm. C'est pas de la moquerie. c'est ce que nous on trouve beaucoup plus noble, c'est le fait de rire de soi, l'autodérision. Et ça, au contraire, c'est peut-être le comble de l'élégance et de l'intelligence, c'est d'arriver à avoir le recul pour pouvoir se dire que on est finalement dans un théâtre humain, comme je disais, de marionnettes, et que c'est en se moquant de soi qu'on arrive un tout petit peu à avancer. Donc on a toujours fait ça. Si on l'avait eu peur, alors on aurait dit mais on se moque des gens en fauteuil roulant, puisque dans Intouchables il y a 1000 vannes sur la façon qu'on a d'être en fauteuil. Et pareil, on n'aurait pas abordé un sujet comme l'autisme en racontant des choses à droite et gauche. On ne moque pas, on rit de situations pour mieux les appréhender, pour mieux les vivre et pour mieux les digérer. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais le mot moqueur, quand on se moque, c'est qu'on se situe au-dessus d'une situation. J'ai pas l'impression et qu'on a la prétention de se situer au-dessus de quoi que ce soit. Mais je comprends la question, évidemment.
Alors du coup, si jamais demain il y avait un monde parfait, s'il y avait, admettons, une année facile, est-ce qu'on pourrait encore faire des comédies s'il n'y avait plus de problème?
Non, parce que la comédie, elle se nourrit du drame, et que le drame et la comédie sont voisins, comme l'amour et la haine, comme beaucoup de choses qui sont antagonistes. Donc non, mais peut-être.
Tu penses qu'on va avoir des années faciles là?
Non, 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 c'était juste pour.
Non, mais c'est vrai qu'on se nourrit de la difficulté à vivre, et mais en même temps, la comédie humaine, la comédie de la vie, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'avoir du recul et de rire de soi. Donc, tant qu'on pourra le faire, alors l'air sera respirable. Là, au moment où on pourra plus le faire, faudra faire attention. Et n'oublions jamais que dans les dictatures, les premiers qui sont atteints, c'est les comiques, ceux qui veulent justement rire des puissants ou du pouvoir. Il faut garder cette capacité à rire et à s'analyser et à être en introspection.
Et la toute petite dernière, vous préférez être aimé ou humé?
Les deux, mon colonel.
Moi, je pense que quand on hume bien, quand on hume bien, quand on hume bien quelqu'un, c'est qu'on a de l'humour.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur Voltage pour écouter votre musique préférée.
She was just my type, million dollar smile, I'm convinced she knows. Hopped in the taxi, we started in the backseat, got tangled in the bedsheets, I know it's not so classy, but meets your eyes on from the start, I'm not looking for no love, not gonna be around, it's here right now, I'm in my never leave ya.
Sur Voltage, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble nos podcasts. Comme celui-ci.
Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué la bonne humeur? Le sourire est communicatif et il n'y a qu'à rencontrer Catherine Godard pour confirmer ce que je dis. L'Orléanaise est sourirologue, un métier inventé de toutes pièces mais qui veut dire beaucoup de choses. Préparatrice mentale et coach en développement personnel, elle aide ses clients à développer leur leadership. Elle a développé plusieurs méthodes pour les aider, faisant appel notamment au neurofeedback, un procédé issu des neurosciences qui permet à tout un chacun d'apprendre à contrôler son cerveau et à le calmer en cas de stress ou de surmenage. On vous en dit plus tout de suite avec Catherine Godard. Catherine Godard, bonjour.
Bonjour Alicia.
Vous êtes sourirologue. Peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. En quelques mots déjà, quel est votre métier?
À votre avis, sourirologue, ça vous inspire quoi?
Déjà, il y a le mot sourire.
Ouais, c'est bon.
C'est bon signe, on est dans le bon, dans le bon sens.
Et justement, un sourire, ça vous inspire quoi?
La joie, la bonne humeur.
C'est un petit peu ça le principe. Moi, je muscle l'audace chez mes clients.
Alors déjà, qui sont vos clients?
Mes clients, ça va être, je vais plutôt aller travailler en entreprise pour développer un leadership positif et contagieux. Donc, cette audace, en fait, c'est la possibilité d'être dans la créativité parce que j'ai lâché plein de trucs. Et en fait, quand je parle de leadership positif et contagieux, c'est quand on est porteur de sens, on a plutôt intérêt à être inspirant. Et pour être inspirant, développer du leadership, c'est quelque chose d'intéressant. Et quand je parle d'audace, ça peut être avoir l'audace de nos ambitions, avoir l'audace de nos rêves, mais ça peut être aussi avoir l'audace de croire en l'intelligence collective. Mmh. Ça peut être aussi avoir l'audace d'exprimer ses sentiments, parce que ça, c'est pas simple à faire. Avoir l'audace d'afficher, d'exprimer sa singularité, ce que je fais un petit peu en inventant le métier, parce que ça vient d'une espèce de drôle d'idée que j'ai eue. Je me suis dit que, en fait, j'ai lu une statistique qui dit qu'en 2030, il y a 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas aujourd'hui. Donc d'accord. Je me suis dit, je vais avoir l'audace de faire un job qui me colle à la peau.
Donc à la base, Catherine, vous êtes coach en développement personnel, c'est ça?
Ouais, je suis préparateur mental et coach de transition. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'accompagner mon client dans le changement, dans peut-être mieux se connaître, pour mieux être en relation avec les autres.
Donc essentiellement des chefs d'entreprise, des managers, c'est ça?
Ouais, en entreprise et puis en individuel. En fait, les gens viennent aujourd'hui plutôt me voir en individuel, mais j'ai l'espoir demain que certains chefs d'entreprise soient assez audacieux pour se dire que une sourirologue en entreprise, c'est une évidence.
Alors si on devait, même si c'est difficile, parce qu'évidemment il y a difficile d'expliquer en quelques mots, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'exercices, il y a un coaching qui est réalisé sur une durée plus qu'une durée d'une interview. Mais alors très concrètement, comment est-ce qu'on coach justement? Quels vont être les exercices qu'une sourirologue peut donner?
C'est une méthode en quatre étapes. Première étape, on va observer et calmer le mental. Deuxième étape, on va comprendre et compléter une boîte à outils personnelle. Troisième étape, on va expérimenter et mettre en place les bons gestes. Et quatrième étape, en fait, c'est le sourire. Ma méthode s'appelle 1, 2, 3, sourire. Et le sourire, en fait, derrière le verbe d'action, c'est transmettre. Mmh. C'est célébrer les réussites. Et là, tu deviens contagieux, en fait.
D'accord. Donc, en gros, faire du positif pour attirer le positif.
Voilà. Si on détaille un petit peu, l'étape 1, observer, calmer le mental, c'est j'utilise des outils de préparation mentale. Ce que j'utilise, et c'est ma petite baguette magique secrète, c'est un outil qui s'appelle du neurofeedback dynamique. C'est une méditation assistée par ordinateur. Imagine ton cerveau quand il est envahi par un tas d'idées. Imagine que ton cerveau, c'est une boule de neige. Tu vois, quand il neige, on voit pas le paysage. Et pour prendre des décisions, des fois, c'est un peu compliqué. Donc en fait, quand je dis observer et calmer le mental, c'est offrir à mon cerveau un temps pour que la neige se pose. Parce que quand t'es agité, tu peux pas apprendre quelque chose de nouveau. Donc en 1, observer, calmer le mental. En 2, c'est là où en fait je vais utiliser les outils de psychopédagogie positive. Donc c'est observer ce qui se passe, comprendre dans mes gestes ce qui convient et ce qui convient pas, donc apprendre de mon fonctionnement. Et après, moi, je viens avec mes outils pour proposer, ouvrir le champ des possibles. Donc ça peut être des outils qui vont être des outils très simples. Je sais pas si vous connaissez le jeu Dixit, mais ça va être un jeu qui va... C'est des belles images, et dans ces images-là, on va aller chercher de la créativité. Dans notre quotidien, quand on est face à nos problématiques, on n'arrive pas à prendre du recul. Aller travailler sur sa créativité permet de temps en temps de se dire « Ah ouais, il y a peut-être autre chose qui existe ». Donc ça, en fait, c'est comprendre et compléter sa boîte à outils. Mais savoir, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Donc expérimenter, un coaching, c'est pas en un rendez-vous que ça marche. Un accompagnement de coaching, c'est souvent sur 6 mois ou sur 1 an.
Et on est d'accord qu'on peut pas le faire tout seul.
En fait, l'intérêt d'un coaching, c'est que tu gagnes du temps. Quand quelqu'un te forme, il a probablement passé 15 ans à expérimenter les choses et te donne son savoir pour que tu ailles plus vite. Donc tu peux très bien acheter beaucoup de livres comme moi, te confronter à beaucoup de problèmes comme moi, et puis petit à petit te faire ta propre boîte à outils. Ou te faire accompagner par quelqu'un qui te permet de gagner du temps. Et aussi de t'encourager au fur et à mesure. Parce que des fois, on baisse un petit peu les bras.
Au début de l'interview, on parlait d'intervention auprès de chefs d'entreprise, ou plutôt des chefs d'entreprise ou des managers. Mm-hmm. Mais finalement, c'est une méthode 1, 2, 3 sourires qui s'adresse à tout le monde.
Mais exactement. Donc dans ma tête, Alicia, j'ai quand même des projets pour distribuer, pour transmettre au plus grand nombre. Et je me dis que peut-être écrire un livre et une méthode, ce serait une idée. Peut-être en 2023, peut-être en 2024.
Donc c'est en projet.
En projet.
Pour les prochains mois, il y a la volonté de rouvrir les rendez-vous, c'est ça? Parce qu'ils avaient été mis en stand-by?
Ouais, il y a eu un petit stand-by parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je crois que la vie a voulu tester la sourirologue pour voir si ce qu'elle dit,
elle pouvait se
l'appliquer. Elle le met en place.
Voilà.
Exactement. Donc en 2022, en fait, en avril 2022, on m'a annoncé un double cancer du sein. Et sur les 10 mois qui viennent de passer... j'ai eu un gros rendez-vous avec moi-même. Ça a été très instructif. J'ai fait du feedback permanent. J'ai raconté ce chemin. En fait, c'est devenu un des outils de ma méthode qui s'appelle du coup le voyage du héros. Et du coup, j'ai raconté tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, ce sera le premier livre que je vais écrire sur le premier trimestre. Donc ce sera le voyage du héros à Lololand, et puis sur le semestre d'après, probablement que je travaillerai sur une méthodo pour partager un peu de sourire au plus grand nombre.
Merci beaucoup Catherine Godard, est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter?
Ouais, tu sais pourquoi le sourire? Parce qu'en fait le sourire, tout le long de mon accompagnement, le sourire c'est la boussole, et c'est aussi la source de ton énergie. Et c'est pour ça qu'on va être très très attentif tout au long du parcours d'accompagnement à garder l'esprit joyeux, ce qui force la créativité.
Bienvenue sur Voltage. Si vous avez trouvé notre sujet précédent intéressant, restez encore, la suite est mieux.
Parce qu'il n'y a pas que les chats et les chiens qu'il faut protéger, on a interviewé Karine Grèce, fondatrice du Clos des Renardises qui se situe en Aquitaine. Comme son nom l'indique, c'est un lieu de protection pour les renards.
Alors, le Clos de Renardis, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2020, mais qui est pensée déjà depuis plusieurs années. Et en fait, au départ, je suis assistante vétérinaire de formation et d'expérience. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en Belgique en tant qu'assistante véto. Et je suis arrivée en France parce que j'ai rencontré mon compagnon et j'ai bifurqué un petit peu de faune, on va dire, et plutôt que la faune domestique, je me suis intéressée à la faune sauvage parce que j'avais déjà une petite arrière-pensée et je m'en occupais déjà un peu en Belgique. Et j'ai un animal un peu totem, on va dire, qui est le renard roux. Et donc j'ai fait de l'éco-volontariat en centre de soins où j'ai plus spécifiquement orienté mon attrait basait sur les renards roux qu'on accueillait au centre, donc centre de soins pour la faune sauvage. Et du coup, j'ai mûri l'idée, comme en France, j'ai constaté que le renard était un animal qui était pourchassé, mais qui bénéficiait d'un double statut qu'on ne connaît pas forcément en Belgique. Bon, il peut être un peu nuisible, mais il est plutôt gibier, mais on s'acharne pas autant. Donc en France, on s'acharne quand même dessus, il est déjà gibier, et en plus, on le considère comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Je trouve que ça ne veut rien dire déjà en termes de biodiversité. Et en plus, il n'y a pas d'argumentaire pour réel. C'est basé sur des croyances, sur des traditions et sur absolument aucun argument scientifique. Donc j'ai voulu aider ce petit animal au nom de tous les autres aussi, qui sont des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, plus particulièrement chez les petits carnivores autochtones. Et du coup, j'ai créé cette association d'abord pour favoriser l'étude, enfin pour s'intéresser à l'étude, le partage des connaissances et la préservation de cette espèce. Donc pour bien juger d'une espèce ou quelle qu'elle soit, il faut quand même la connaître, parce qu'on ne peut pas baser une connaissance sur des croyances, sur des constats. Oui, le fameux pilleur de poulailler. Bon, ça fait des générations et des générations, des siècles que cette étiquette poursuit cet animal, ce pauvre animal. Mais je pense que maintenant, l'évolution doit aller dans tous les sens, et surtout aussi en faveur de la nature. Et comme actuellement, en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur au niveau des mentalités, donc avec les restrictions au niveau des animaux dans les cirques, au niveau des zoos, on fait plus attention au bien-être animal. En animalerie, maintenant, ça évolue dans le sens où on considère enfin l'animal comme être sensible. Bon, l'animal sauvage reste encore une catégorie, on va dire, qui est encore un peu pauvrette, dans le sens où c'est un animal. Bon, les animaux sauvages, ils sont tenus à l'écart, forcément, on les voit pas tous les jours, et ça reste nullius, qui n'appartient, donc ce qui veut dire qu'ils n'appartiennent à personne et qui sont appropriables par n'importe qui, et qui peuvent être susceptibles d'être torturés. Donc ça laisse un petit peu carte blanche aux gens, en sachant que si torturent ces animaux ou s'ils les chassent, voilà, c'est de la faune sauvage, et ils ne sont pas dans la loi, protégés au sens strict comme le sont maintenant les animaux domestiques et les animaux familiers. Donc j'ai développé l'idée de faire connaître ces animaux-là, donc le renard principalement, pour le remettre à sa juste place bioécologique, et pas qu'on continue à le considérer comme le pilleur de poulailler, celui qui véhicule la rage et d'autres maladies, le pouilleux, la sale bête, enfin bon, pour essayer de faire évoluer les mentalités. Mais pour apprendre à pour protéger, il faut comprendre l'animal, et pour le comprendre, il faut le connaître. Donc c'est un peu notre but. Et parallèlement à ce côté plus théorique, pédagogique, mais plus théorique, j'ai eu l'idée de créer un refuge. Il en existe déjà un petit refuge dans le nord de la France, un refuge pour renards qui sont contraints à la captivité définitive. Donc on n'est pas un centre de soins, on n'est pas un parc animalier, mais on recueille des animaux qui seraient incapables de survivre à l'état sauvage, donc qui auraient perdu cette autonomie qui est indispensable à leur survie à l'état sauvage. Donc ils proviendraient essentiellement deux centres de soins. Bon, à l'échelle d'un centre en France, c'est pas très significatif. Il y en a pas, on va pas en avoir des tas, mais au niveau de plusieurs centres, et notamment de la DDT, de la police de l'environnement, qui eux pratiquent des saisies chez des gens qui détiennent des animaux illégalement, parce qu'il faut beaucoup de certificats d'autorisation. C'est très encadré de détenir un animal sauvage, et donc il y a des animaux qui sont imprégnés et d'autres qui sont handicapés. Donc ça dépend. Donc centre de soins faune sauvage, on aurait des animaux qui auraient perdu leur aptitude par un handicap, des séquelles en fait, en quelque sorte. Bon, on a une éthique, hein, on a étudié une éthique très profondément bien ancré sur le bien-être de l'animal. Donc on va pas garder, on n'est pas là pour garder des animaux grabataires. On est là pour donner une deuxième chance à des animaux qui ont choisi de vivre, qui ont toutes les capacités, on va dire, de de bien vivre, mais qui malheureusement ont un petit handicap, soit moteur, soit neurologique, qui les empêche d'être à 100% dans la nature et donc de recouvrer leur vie sauvage. D'autre part, en ce qui concerne les saisies, ce sont des animaux qui seront tellement imprégnés qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, ou même s'ils pouvaient un peu se débrouiller, ils seraient trop enclins à retourner vers l'être humain. Et donc là, ce serait de toute façon le condamner à terme à être abattu ou à être etc.
Et qu'on le précise, c'est un lieu qui n'est pas ouvert au public. Hein.
C'est un havre de paix, c'est un sanctuaire pour des animaux qui récupèrent un peu. Et ce sont des animaux essentiellement qui ont des séquelles d'activité humaine. Hein. Ce sont parce que les animaux qui meurent de leur propre mort naturelle, donc de maladie ou de vieillesse, s'ils meurent de vieillesse en milieu naturel, ce qui est très rare, on ne les retrouve pas ceux-là, ils vont mourir au milieu des bois. Nous, ce qu'on va récupérer, ce sont des animaux qui auront été recueillis par des gens qui les auront conduits en centre de soins à la faune sauvage et des animaux qui auront été saisis, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, on ne fait pas d'élevage non plus. Ces animaux vont être stérilisés, identifiés, parce que ça relève d'un protocole très strict au niveau législatif. Et ils seront déparasités, donc vermifugés, ils seront vaccinés. Donc, et on ne fait pas de reproduction du tout. Il n'est pas du tout question de relâcher des animaux dans la nature ni d'en faire un élevage. C'est pas le but du tout. C'est vraiment d'offrir une seconde vie et par là sensibiliser le public déjà pour connaître l'espèce, pour qu'elle se rende compte qu'un renard, ça n'a pas la taille d'un loup, que ce n'est pas non plus le vecteur de la rage, parce que la rage est éradiquée en France, la rage vulpine est éradiquée depuis 2001 officiellement, que voilà, que ce n'est pas le monstre dont on en fait parfois l'écho, mais c'est un animal qui est très utile aussi et pour la biodiversité, mais aussi pour les services systémiques qu'il rend aux agriculteurs bio ou pas bio d'ailleurs, parce qu'il se nourrit à 75% de petits rongeurs qui, eux, sont des déprédateurs de culture, par exemple, et ils empêchent la prolifération. Alors, on explique aussi que les petits prédateurs comme le renard ne pullulent pas parce qu'un prédateur se reproduit en fonction des ressources alimentaires de son milieu. Donc, quand il n'y a pas assez de nourriture, il y a des années où la renarde, soit elle ne va pas être gestante, soit elle aura très peu de petits, et soit les petits vont même pas survivre. Et donc, ce sont des espèces, les petits carnivores, les petits prédateurs, qui se régulent tout à fait naturellement.
Je vous rappelle le nom de l'association, le Clos des Renardises, situé en Aquitaine.
Vous êtes au cœur de la nuit et on se retrouve demain sur Voltage pour passer un moment ensemble. À demain.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. Je n'ai pas mérité ça, dis-moi ce que tu attends de moi. De cet amour véritable, y'a plus l'étincelle pour ton sang que ça brûle au fond de moi. Je t'aimais tant que ça, pourquoi ça fait si mal? C'est comme mourir un peu, à petit peu.
tente